à côté de moi. Je ne peux pas tout faire en même temps. Bon. Voilà. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi,
je m'appuie
sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
J'ai mis le pain à cuire, il faut que tu viennes à 6h03.
Voilà, chers amis, nous allons prendre la Bible dans le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 17. Soyez bénis. Daniel, chapitre 2. Verset 17. C'est une belle prière. Bonjour Diane. Je suis content. Je te souhaite force et courage et paix dans le Seigneur. Bonjour Steven aussi. Alors Daniel, chapitre 2, verset 17 à 23. C'est une très belle prière. Je pense que vous devriez l'utiliser de temps en temps. Il y a des prières comme ça. Si vous voulez, une fois, je ferai toute une liste de belles prières qu'il y a dans la Bible. Ça peut vous aider énormément dans votre vie. La vie est tellement difficile parfois, ou incertaine. Hein? Alors, chapitre 2, verset 17. Daniel alla dans sa maison et l'instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc, en fait, le roi de Babylone a eu un songe terrible, et il a effrayé, et il y a énormément de sages dans cette cour, des centaines de magiciens, de devins, et il ne veut pas dire le songe. Il dit, si vous êtes puissants, vous êtes réellement des devins, vous devez savoir le songe que j'ai eu. Deuxième chose, vous devez m'en donner le sens. Et il est fou furieux parce qu'il n'y en a aucun et il se rend compte qu'il est entouré de menteurs, d'imposteurs et qu'il ne veut pas être un ego avec ce genre d'espèce de devin. Et donc, Daniel, lui, sait très bien qu'ils sont tous condamnés à mort parce qu'il était prisonnier, il était mis dans le même lot. Et donc, ils doivent trouver ses amis, ils vont jeûner et prier. Alors, verset 18, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons et le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alors, Dieu des cieux, alors pensez à notre Père qui est aux cieux, c'est pas l'endroit où volent les avions, les papillons, les nuages, c'est pas du tout ça. C'est le trône de gloire divin, c'est les anges, les archanges. Lisez par exemple Apocalypse chapitre 4 et 5. Lisez d'autres textes, je pourrais en citer, mais Apocalypse chapitre 4 et 5 sont suffisants, pour le moment en tout cas. Alors, voilà ce qu'il dit, voilà ce que Daniel dit. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Donc, il y a clairement eu un don de compréhension, de discernement, d'intelligence chez Daniel. Et chez ses trois amis, évidemment. Et regardez la belle prière qu'il rend à Dieu, n'est-ce pas? Et ce qu'il y a, c'est que il va plus tard devant ce prince de Babylone, Nebuchadnezzar, si redoutable. Il va dire ceci. Verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Et donc, il donne toute l'explication. C'est un texte extrêmement important dans la Bible. Nous y reviendrons par la suite. Alors, les prophéties du Seigneur, de Dieu, à travers la Bible, sont totales et radicales. Contrairement à ce qu'on pense, elles ont une portée, un sens précis. Et elles définissent des décisions, elles donnent des décisions divines. Elles nous les donnent. Faut-il les comprendre? C'est ça le problème. Alors, allons voir dans Marc, chapitre 13, verset 23. Marc, chapitre 13, verset 23. À la fin du verset 23. C'est ça. Alors, soyez sur vos gardes, c'est Jésus qui dit ça. Juste avant, il dit, au verset 22, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Cette expression, je vous ai tout annoncé d'avance, c'est véritablement très important. C'est pour ça que dans Jean, chapitre 14, au chapitre 16, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé et il vous en donnera l'intelligence. Rappelez-vous, tout ce que Jésus a dit et annoncé, il faut le trouver dans la Bible, il faut lire sa Bible, il faut la fréquenter régulièrement. Et clairement, on voit qu'il y a des élus, on voit que beaucoup de personnes vont essayer de séduire les élus, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui ont été appelés, qui ont répondu à l'appel et qui ont accepté le sacrifice de Christ. Et au verset 20, « Si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Donc on voit que Jésus nous dit que le temps a été raccourci pour sa venue. Le temps était raccourci pour établir son règne. Parce que c'est trop dangereux pour ceux qui ont la foi, c'est trop dangereux, c'est véritablement très, très mauvais. Donc, Dieu sait que des temps mauvais arrivent, Dieu sait, et il veut raccourcir le temps des élus. C'est-à-dire, il veut enlever son église comme il a enlevé Noé dans son arche. Les autres ont péri. Et donc, celui qui veut être sauvé des grandes épreuves sur ce monde doit aussi prendre la même position que Noé, c'est vivre dans la foi profondément, envers et contre tout, même si tout le monde s'en moque. Alors, mon sujet aujourd'hui, c'est la colère et la grâce, la colère de Dieu et la grâce de Dieu. Alors, nous allons prendre Hébreux 10, verset 13. Il arrive parfois que je ne donne pas beaucoup de citations bibliques. C'est arrivé quelquefois. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Prenez votre Bible, prenez un papier, un bic, ou alors réécoutez le message et puis étudiez-le. Parce que c'est impossible, à mon avis, moi, il m'a fallu du temps pour l'élaborer. Je ne pense pas qu'on puisse digérer tout ça en une fois. Alors, Hébreux 10, verset 13. Je vais lire à partir du verset 10. C'est en vertu de cette volonté de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire sauvés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés et sauvés par l'offrande de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une seule offrande. Donc ce qu'on a inventé au XIIe siècle, avec saint Thomas d'Aquin et un saint Anselme de Canterbury, que le prêtre, sur l'autel, répète le saint sacrifice de la messe, hein, et puis même qu'on le fait pour des morts, tout cela ne va pas en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le sacrifice de Jésus-Christ a eu lieu une fois pour toutes, il n'y en a pas d'autre après. C'est quand même étrange qu'il a fallu attendre le XIIe siècle pour inventer le saint sacrifice de la messe. Ça, c'est quelque chose, et l'Église catholique considère qu'elle a ce qu'on appelle une autorité spirituelle, le magistère, et que des révélations lui sont faites qui sont égales ou supérieures à celles de la Bible. Ça, moi je ne l'accepte pas. Dieu a donné les prophètes de l'Ancien Testament, a donné Jésus-Christ et les saints apôtres. Et à la mort de l'apôtre Jean, la révélation est terminée. Tout ce qui a été fait après Constantin, quand Constantin l'empereur a déclaré que son empire devenait chrétien, qu'on a baptisé tout le monde, 80 millions de personnes sur quelques années, alors qu'ils n'avaient pas la foi, eh bien c'est un gag. C'est un bluff, ça ne correspond pas à la foi chrétienne. Alors lisons. Hébreux 10, verset 11. Tout prêtre fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Pourquoi Apollos, qui a écrit Hébreux, dit ça? Mais parce que à l'époque où il l'écrit, le temple de Jérusalem existe encore, il y a encore des prêtres qui font des sacrifices. Et qui considèrent que ce que Jésus a fait sur la croix n'a pas de valeur. Ils font encore des sacrifices, des brebis, des agneaux, des tourterelles, jusqu'au jour où Titus va tout raser, en l'an 70. Alors, Apollos dit ceci, « Tout prêtre fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir, en parlant de Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Il est assis à la droite de Dieu. On reviendra aussi sur ce sujet, mais le verset 13 est très important. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il attend. Vous rendez compte que Jésus-Christ est en train d'attendre dans les cieux, sur son trône, que tous les ennemis soient brisés, les ennemis qui sont contraires à la vérité, à la sainteté. Il attend. Ça veut dire quoi? Que Dieu le Père a décidé à un moment donné que tous les ennemis de la vérité seraient brisés. Et Christ attend. Pourquoi? Attend pour venir ôter ceux qui croient en lui, les préserver des méchants, des injustes, et la deuxième chose, établir son règne sur la terre. Un règne où il n'y a ni méchanceté, ni impureté, ni souillure, ni injustice, ni mort, ni deuil, ni chagrin. Alors, il attend. Jésus-Christ attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alors, chers amis, ça c'est extrêmement important, très important. Jésus-Christ attend, il sait qu'il va arriver, il sait qu'il va venir en communion, en union avec le Père, pour établir un règne puissant sur la terre de paix et de justice. Ce verbe-là, ça m'a frappé en étudiant presque deux tiers de la journée, ce message, je ne pourrais pas tout présenter aujourd'hui, il y en a pour deux, trois fois. Apocalypse, chapitre 6, verset 16. Apocalypse, chapitre 6, verset 16 et 17. Je commence au verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous, devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Donc, le jour de la colère de Dieu existe. J'ai rencontré beaucoup dans ma vie beaucoup de musulmans, ils savent ça aussi. Ils le savent aussi. Figurez-vous. Très important. Alors, dans Hébreux 10, versets 26 à 31, il est dit ceci. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà une parole qui est dite et qui, bien sûr, fait comprendre quelque chose. Si quelqu'un a entendu l'évangile, clairement, complètement, et sans moque, raille, dénature et critique la parole de Dieu, il est sous le jugement. Il est dans une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Chers amis, au verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, nous devons craindre. Mais si nous aimons Dieu et que nous avons une vie complètement en ordre avec lui, nous sommes assurés de sa bénédiction, de sa protection par le sang de Jésus. Mais ce qui est, si nous jouons avec le Seigneur, ça c'est une autre paire de manches. Ça risque de tourner très mal. Alors, si nous allons plus loin, dans le même chapitre, chapitre 10, verset 37. Je vais prendre le verset 35. D'abord, n'abandonnez donc pas votre assurance, donc cette confiance dans le sacrifice de Christ, dans son pardon des péchés et dans le don du Saint-Esprit et dans la qualité et l'autorité de sa parole. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, le salut éternel. Vous avez le même verset, ici on est verset 35, mais le même au verset 25. N'abandonnez donc pas votre assurance, et en même temps votre assemblée, votre église. Car vous avez besoin de persévérance. Le mot persévérance, c'est la foi qui passe à travers les épreuves, une après l'autre, et qui reste fidèle. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Mon juste, c'est valable pour une femme, une jeune fille, une enfant, une personne âgée. Mon juste ou ma juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, clairement, l'Épître aux Hébreux appelle les chrétiens dans la deuxième partie du premier siècle, à la fidélité, à la persévérance, parce que c'était pas facile d'être chrétien. Il y avait beaucoup de persécutions, beaucoup de grands malheurs qui touchaient les chrétiens. Et il fallait les encourager à s'accrocher au Seigneur. L'Épître aux Hébreux, comme beaucoup d'épîtres des apôtres, sert, avait cette visée-là. Alors, nous allons aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Bonjour Dylan, bonjour Antoinette, bonjour Muriel. Alors, Hébreux, chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. nous avons reçu une grâce. C'est que Jésus est venu sur la terre, nous a aimés. Il nous aime toujours. Il est vivant au siècle des siècles. Et il est là, sur le point de venir. Les grands problèmes du monde nous montrent que les dernières prophéties sont en cours. Il est là, sur le point de venir. Nous devons prendre patience. Nous ne devons pas nous priver de la grâce, de son salut, de son amour, de son pardon à la croix. Et il faut rester fidèle, chers amis. Il faut rester fort dans la foi. Nous avons une grâce inouïe en Jésus-Christ, un cadeau formidable. Personne de nous n'est parfait. Personne de nous ne mérite de rentrer dans le ciel auprès de Dieu. Mais, parce que Jésus a payé le prix fort, nous avons tous ce privilège pour ceux qui ont la foi en Jésus et qui obéissent à son évangile. Alors, prenons les versets 25 à 29, chapitre 12 toujours. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Donc gardez-vous de ne pas lire l'évangile où Jésus vous parle, me parle. Vous savez que nous sommes profondément paresseux et parfois bien rebelles. Je vous avoue que quand on a pris l'habitude de courir, l'habitude d'être distrait par des tas de choses, se mettre à table et rester devant sa Bible pendant 3 heures ou 5 heures pour l'étudier sérieusement, c'est une lutte. Quand on a perdu l'habitude de passer du temps avec le Seigneur et de l'aimer, c'est une lutte. Mais quand on a passé ces heures-là, après, on est heureux. On a retrouvé le contact. On ne marche plus sur les pieds du Seigneur Jésus. On l'aime. On ne fait pas semblant de le connaître. On le connaît à travers sa parole. Et il est évident, chers amis, qu'il faut y mettre une bonne dose. Quand l'assiette de soupe est remplie, je ne bois pas qu'une cuillerée. Je bois toute l'assiette. Quand j'ai une bonne tasse de café, eh bien, je ne prends pas une petite gorgée. Je boirai toute la tasse de café. Un bon plat de pâte avec de la sauce bolognaise, je ne vais pas prendre un vermicelle, une pâte, la sucer, et puis dire, j'ai mangé. Eh bien, pourquoi? Avec la parole de Dieu. C'est la même chose. Pourquoi négligeons-nous un tel cadeau que la parole de Dieu? Donc, Hébreux, chapitre 12, verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Alors, quand je dis « refuser d'entendre celui qui parle », je sais que sur la terre, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. J'avais été à l'école, grâce à des parents courageux, j'avais pu aller à l'école, et mes sœurs aussi, mais quand j'ai fait mon service militaire, j'ai constaté que dans la caserne, beaucoup de jeunes gars de 15, de 17, 18, 20 ans étaient punis, étaient aux corvées tout le temps. Et ça m'intriguait que c'était toujours les mêmes. Je me suis mis devant le grand panneau, au poste de garde, où c'était les rôles des corvées. Parce qu'une caserne, c'est grand, il y a un tas de corvées. Et j'étais là, je venais avant. Et j'ai constaté qu'il y avait peut-être 10, 15, 20 gars. Ils ne savaient pas lire ce qui était sur les panneaux. Ils étaient malheureux. Alors, 10, 15, 20, pas au début. J'en ai trouvé un ou deux. Et puis j'ai vu qu'ils ne savaient pas lire. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors je leur ai lu. Et finalement, ils n'étaient plus collés, ils n'étaient plus punis. Parce que comme ils n'avaient pas lu, ils ne se présentaient pas à la corvée, ils étaient punis. Ils en avaient 10. Puis ils ne retournaient pas le week-end. Ils restaient parfois 2-3 mois à la caserne sans retourner. Alors, tous les fils de papa ne faisaient jamais les corvées et prenaient du bon temps. Et tous ces jeunes ouvriers qui avaient travaillé depuis l'âge de 13-14 ans, qui étaient là et qui aimaient leurs parents, qui aimaient, et beaucoup avaient des jeunes femmes, un jeune couple, parfois un enfant, ne pouvaient pas retourner. Alors je l'ai dit, dites-le aux autres. Et après, il y en avait 15 ou 20 devant le... Et on lisait ensemble, et ils n'étaient plus collés. Et il fallait donc mettre une bonne corvée sur le dos des fils à papa, autant qu'aux autres. je n'ai jamais supporté l'injustice, je vous le dis franchement. J'ai la tête très dure à ce niveau-là. Si bien que l'adjudant, le commandant, est fâché. Et oui, parce que les fils à papa rouspétaient, et les parents des fils à papa rouspétaient. Mais moi, j'ai tenu bon. Et on m'a collé aux patates, 15 jours dans les caves, avec un pauvre gars qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui était gentil, un bon gars. J'ai appris que beaucoup de gens ne savent pas lire. Et au Bénin aussi, dans les églises. Beaucoup. Chez les gitans, les gens du voyage. Et puis au Pakistan, dans toutes les personnes que je vois sur mon smartphone, combien savent lire? Une très petite minorité. C'est pour ça que j'avais le souci que, avec la grâce de Dieu, on puisse faire une école pour les enfants. Et alors, chers amis, pourquoi nos filles ont créé une école? Parce que c'est nécessaire. Et parfois, si des enfants ont difficile d'aller à l'école, eh bien, avec l'amour, avec la compétence, elles peuvent arriver à leur enseigner, apprendre à lire, alors qu'autre part, on les met sur le côté. Et puis, on ne leur apprend plus rien parce qu'ils ne savent pas suivre. Alors, quand je dis ça, c'est parce que gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Je pense que quand je dis refusez-vous de lire l'évangile, si vous ne savez pas lire, et il y en a des millions sur la terre, ne refusez pas d'écouter des messages chrétiens et demandez à Dieu de vous montrer si c'est des menteurs ou des gens fidèles à la parole qui vous parlent. Et vous serez guidés. J'ai vu cela en Bulgarie, à droite et gauche. J'ai vu des gens au Bénin. Ils savaient reconnaître un menteur d'un vrai prédicateur. Et vous pouvez, dans votre cœur, par l'autorité du Saint-Esprit, savoir si ça vient de Jésus ou pas. Si c'est la vérité ou si c'est du bluff. Ça vient du diable. Alors, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé dans le désert, hein, quand tous les Hébreux venaient d'Égypte vers Canaan, les trois quarts, 95% ne savaient pas lire. Donc, mais ils refusèrent d'entendre. Donc l'audition est très importante, les oreilles, c'est la base de tout, avec les yeux. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, donc des paroles divines, n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Donc Jésus nous parle du haut des cieux à travers son évangile, mais à travers aussi des messages comme par exemple celui que j'essaye de vous donner aujourd'hui. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Vous voyez bien que tout est ébranlé pour le moment. Tout s'envenime, il n'y a rien qui tourneront. Hein. Ce sont les choses ébranlées qui sont là, décrites là, et dans beaucoup d'autres textes. Et une fois encore, indique le changement des choses ébranlées. Les choses ébranlées vont passer pour avoir des choses fermes, définitives, justes pour ceux qui ont accepté la vérité de Christ. Alors, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent éternellement. C'est pourquoi nous recevons un royaume inébranlable, nous montrons notre reconnaissance à Dieu, par un culte qui lui soit agréable, avec piété, donc beaucoup de foi, hein, et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il y a toujours un équilibre entre la crainte, le respect, la déférence envers Dieu et l'amour et l'obéissance. Il faut un équilibre. Quand quelqu'un a super confiance, il prend Dieu à la rigolade, il prend tout en surface. S'il a complètement peur tout le temps, il va pas comprendre la grâce qui lui est faite en Jésus. Et à la croix. Donc, il faut un équilibre. Il faut une action à l'intérieur du cœur, de l'âme, celle du Saint-Esprit, qui donne la vraie dose de foi, la vraie dose d'amour et de crainte. nécessaire à une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Rappelez-vous, dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, affermi par la grâce. » Donc, par ce qui vient d'en haut, de Dieu. Et ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Vous avez vu que pendant plusieurs messages, je vous ai dit comment étaient apparues les fausses doctrines. Suite à une demande d'une jeune fille de Champigny-sur-Marne, qui avait demandé, je lui explique, comment était apparu le catholicisme. Les fausses doctrines ne sont pas le propre du catholicisme. Il y en a aussi chez les témoins de Jéhovah, il y en a aussi en orthodoxie. Et il arrive que même dans des courants évangéliques, il y en ait. Et chez les protestants, évidemment. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Donc, on entend et le cœur est affermi par la grâce. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Dieu peut fortifier le cœur pour qu'il sache discerner si ça vient de Dieu ou si ça vient du malin, du menteur. Donc, colère et grâce, oui, font partie du message de la Bible. Colère et grâce, évidemment. Alors, nous allons aller, puisque la grâce va culminer à Sion, en Jérusalem, cette grâce va être excellente, nous allons aller dans Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Quand la grâce de Jésus à la croix et à sa résurrection est complète. Elle nous est accordée quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Mais ce qu'il y a, elle va être visible, elle va être sur terre, elle va s'établir dans sa gloire. Ce sera la gloire de la grâce. Alors, Ésaïe chapitre 2, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Donc, la gloire de l'Éternel sera au-dessus des collines, au-dessus de tous les peuples, au-dessus de toutes les nations. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Évidemment, la loi, la parole de l'Éternel, c'est le Christ lui-même. Il l'a complètement accompli en lui-même. Il faisait son péché. Il sera le juge des nations. Il sera l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyos, donc des pioches, des houes, pour cultiver le jardin. Fini les supermarchés, le trafic des multinationales, les conteneurs et les avions et les bateaux qui amènent la nourriture d'autre part. Tout le monde aura sa part de responsabilité et tout le monde aura sa part de terre dans le royaume de Christ. Fini d'exploiter les autres. Fini à servir des peuples entiers, comme l'Empire romain l'a fait et comme nos pays occidentaux le font. Quoique ça touche tout doucement à sa fin. Alors, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront les hoyos, les houes, les pioches, et de leurs lances, des serpes. Ben oui, pour faucher le blé. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Et quelle est la lumière de l'Éternel? Ben c'est Jésus-Christ. Jean 8, 35, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 1. La parole était la lumière. Elle a brillé dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas voulu. En attendant, la lumière reste la lumière. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, et Dieu a dit que la lumière soit révélée. C'est pas Christ, c'est pas Barak. Soit révélée. Donc la lumière de Christ s'est révélée. Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 8, il dit « Et Dieu qui a dit que la lumière brille dans les ténèbres a brillé sur la face de Christ pour connaître la gloire de Dieu. » Voilà. Venez et marchons dans la lumière de l'Éternel. Voir Christ, c'est connaître Dieu. Ésaïe chapitre 2 est formidable parce que c'est une promesse dès le départ d'un grand prophète, 780 avant Jésus. Verset 12. Il y a un jour pour l'Éternel des armées, donc des anges, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux, on peut dire toute femme orgueilleuse aussi, hein, parce qu'il y en a pas mal, hein, et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Abaissé sans eux ou avec eux. Tout orgueil n'a pas de place devant Dieu. Je pense que réellement, quand on a compris la qualité de vie spirituelle que Jésus nous demande, le point central, c'est d'éviter l'orgueil. Ça, c'est de le mettre en dessous de nos talons. Verset 19. Isaïe, chapitre 2, verset 19. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Vous connaissez ces versets, on les retrouve dans Apocalypse, au chapitre 6, versets 16 à 17, lorsqu'il y a la colère de l'agneau. On l'a lu tout à l'heure. Eh bien, ils sont là dans Isaïe. Verset 17, l'homme orgueilleux sera humilié, le hautain sera baissé, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. C'est formidable. Je trouve que c'est un jour formidable. Entre nous, il y en a marre. Ça s'est duré. Mais le Seigneur le sait mieux que nous. Alors, je prends les versets 21. Ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, Dieu va effrayer la terre. Pas ceux qui ont la foi en lui, puisqu'ils ne sont pas là, ils sont enlevés, comme Noé a été enlevé. C'est pour effrayer les autres. Dans ceux qui sont effrayés, durant les périodes de tribulation, il y en a quand même qui vont se convertir. Alors, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Donc nous voyons ici, au verset 22, que l'idolâtrie de l'être humain est contraire à la foi. Mes chères jeunes filles, mes chers jeunes gens, quand vous voulez vous marier, n'idolâtrez pas un candidat au mariage. Confiez-vous dans l'Éternel, priez. Et sachez bien que c'est Dieu qui doit vous révéler quelle est la bonne personne pour partager votre existence avec Dieu ensemble. Mais ne vous confiez pas dans l'humain, à l'apparence, aux vêtements, à la forme du corps, aux beautés, etc. Ou beau langage. Et c'est la même chose en politique. C'est la même chose dans la religion, dans la foi. On ne doit pas se confier dans l'eau, seulement se reposer sur le Seigneur. C'est quelque chose, c'est un challenge, c'est un combat spirituel en nous pour vivre de cette manière. Il faut énormément d'amour de Dieu et de crainte en même temps. Un bon mélange fait que on se plante rarement. On y arrive quand même parfois, hein. Dire que Dieu est bon avec nous. Alors, dans Daniel, puisque nous avons vu des beaux textes d'Isaïe, voyons ce que dit Daniel à propos de ce royaume où la lumière sera sur la montagne de Sion. Daniel, chapitre 2, versets 44 et 45. Daniel, chapitre 2, versets 44 et 45. Ça me fait du bien, il y a deux auditeurs ici dans la pièce, figurez-vous. Souvent, je suis tout seul avec vous, donc jamais tout seul, et avec le Seigneur, jamais tout seul. Vous connaissez ce chant? Non, jamais tout seul, n'est-ce pas? Jean, chapitre 2, verset... Daniel, chapitre 2, versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, de différents rois que Daniel vient de révéler au roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le roi des Mèdes et des Perses, le roi de Grecs, Alexandre le Grand, le roi de l'Empire romain, de César, et puis les rois de la Confédération méditerranée européenne, de cette Europe pleine de magouilles et de franc-maçonnerie, eh bien tous ces rois, si vous voulez, les sept rois, le G7, eh bien il y a clairement un autre roi. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Les derniers royaumes qui seront brisés, c'est ceux qui ont été créés en 2009, les 10 royaumes bioéthiques. On tient les gens avec la peur des problèmes climatiques et des problèmes de santé. Qu'on provoque, qu'on guérit, qu'on provoque, qu'on guérit. Les 10 royaumes bioéthiques et les 7 rois, le G7. Eh bien, tout cela, ils seront brisés. Tous ces royaumes-là, rien ne subsistera. Verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'or et l'argent. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. La pierre qui vient de la montagne et qui n'est faite d'aucune main, c'est le Christ. La pierre angulaire, la pierre sur laquelle il ne faut pas s'opposer. Alors, chers amis, des actions de grâce sont nécessaires, des grandes actions de grâce. Retournons dans Ésaïe chapitre 12. Parce que nous avons un beau futur. Oui, celui qui est paniqueur et qui n'a pas la foi, c'est sûr, là, c'est pas marrant pour lui. Mais nous avons de grandes promesses éternelles, de grandes prophéties pour nous donner la paix, la force de la foi, l'amour de la foi, et l'amour de Dieu, l'amour de la parole, des prophéties. Alors, Ésaïe 12, « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée de moi, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. » C'est beau. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, tu me donnerais de l'eau à boire, tu n'auras plus jamais soif. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, quand l'Esprit Saint sera donné à ceux qui croient en lui, lorsqu'il aura été glorifié, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Donc c'est les eaux vives, c'est la vie divine, c'est la vie du Saint-Esprit. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Donc, dans ce royaume, il y aura une immense évangélisation, une immense propagation de la bonne nouvelle. Non seulement 12 apôtres, comme à l'époque du début du christianisme, mais 12 fois 12 000, 144 000 personnes venu d'Israël, converti à Christ. Vous vous rendez compte la force de ce serviteur de Dieu, de ce servante de Dieu. Et en plus, dans le chapitre 7, vous voyez qu'après, il y a des gens de toute nation, de toute langue, de toute race qui les suivent et qui font la même chose. J'espère que vous en serez dans le royaume de Christ. Au service de la vérité, au service de la joie et de la vie divine. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, c'est Jérusalem. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël? Mais oui, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Malachie, chapitre 3. Quand certains osent avec Origène, et ensuite dans la théologie systématique de l'Église catholique, dire que les prophéties n'ont pas de contenu historique et pas de portée concrète, c'est grave. Se mettre 80% de la Bible à la poubelle. Donc, c'est se moquer de Dieu. Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ceux-ci présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, donc ceux qui font de l'hypnotisme, de l'envoûtement, et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Chers amis, voici un petit commentaire. Quand le jour de l'Éternel, le messager rentre dans le temple, le messager de Dieu, c'est Jésus-Christ. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Ceux qui ont la foi en lui. Ceux qui sont ses amis, ceux qui l'ont aimé, vraiment. En serez-vous? Alors, il sera comme le feu du fondeur. Prenez une pierre, passez-la dans un haut fourneau, il va ressortir du métal d'un côté et du laitier de l'autre côté. La pierre fondue, des minéraux fondus. Et encore. Encore quoi? La potasse des foulons. C'est quoi la potasse des foulons? Ben, à cette époque-là, si vous voulez, il y avait des sources dans certaines régions en Israël où il y avait de l'argile blanche, basique. On appelle ça du kaolin. Il y en a en France, il y en a dans beaucoup de pays. Et qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait souvent une source. On faisait un trou, on piétinait là-dedans, faisait de la boue blanche et on mettait tous les habits de laine dedans. Et le kaolin, puisqu'il est basique, nettoyait la laine de son acidité, de sa sueur, des transpirations, de toutes les saletés possibles. Et après, on allait rincer la laine dans la source à côté pour avoir une laine propre qui sentait bon. Car la laine, quand elle est propre, elle sent très bon. Nous avons deux petits agneaux. C'est magnifique de les prendre dans les bras, de les caresser et de mettre son nez dessus. Ils sentent bon, ils sentent l'herbe, ils sentent la prairie, ils sentent la vie. Alors, cette image du fondeur, du foulon. Eh bien, c'est ce qui est arrivé dans Matthieu 17. C'est Jésus. Matthieu 17, on verra après dans Marc. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils sont partis vers le mont Hermon, six jours de marche. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Vous voyez à quel point c'était magnifique. Prenons Marc chapitre 9 verset 2. Marc chapitre 9 verset 2. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Donc, nous voyons le texte ici. Quel texte? Qu'on a lu dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Et il est mis... Ces vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Vous avez le même texte dans Luc, etc. La gloire de Jésus est évidente pour tous ceux qui ont foi en lui. Le moment grandiose du grand bonheur, de l'accomplissement, c'est-à-dire, on appelle ça en grec le pléroïme, le bonheur suprême attend celui qui a donné sa vie à Jésus et qui obéit à sa parole. Donc Malachie, chapitre 3, verset 1 à 4, c'est pas de la petite blague, puisque Jésus l'a démontré lui-même à Pierre, Jacques et Jean, en présence de Moïse et d'Élie, les deux grands prophètes de l'Ancien Testament. Prenons maintenant Ésaïe, chapitre 30. Si je pouvais, mes amis, je lis la Bible jusqu'à 6 heures du matin avec vous, mais c'est pas raisonnable. Un petit peu à la fois. Surtout, réétudiez les textes, s'il vous plaît, contemplez-les, mettez-les dans votre cœur, dans votre âme. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. L'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, donc Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu ta voix, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre toutes les idoles. » Etc., etc. Tout ce chapitre est formidable, il est très important, et en même temps, il y a la grâce et la colère. Et la colère, pour les méchants, pour ceux, les incrédules, pour les ennemis. Verset 30. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Alors, la voix de l'Éternel, etc. Vous avez ça, bien sûr, dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Voyons maintenant Jérémie. Je terminerai aujourd'hui avec Jérémie 31. Impossible d'aller plus loin. Il faut être raisonnable. Jérémie 31, c'est magnifique. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Et aussi de nous, hein. Il ne faut pas être jaloux d'Israël. Lisez Apocalypse chapitre 7. On aura tous notre morceau de gâteau divin. Ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Prenez ce verset, chers amis. Chers amis, pour vous. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure. Tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et accueilleront le fruit. Etc. Le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons en Sion, à Jérusalem, vers l'Éternel notre Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges. Dites, Éternel, délivre ton peuple, reste Israël. Vous lirez, je le souhaite, vous lirez tout le chapitre 31. Au verset 27, voici le jour, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'homme et d'une semence de bête. J'ensemencerai, je donnerai une nouvelle vie, j'engendrerai de nouveaux êtres, de nouveaux cœurs, de nouvelles âmes. Voilà, chers amis. La colère et la grâce, lisez le chapitre 31 de Jérémie, la colère et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message, sans doute, va durer deux, trois fois, lundi, mercredi. J'en arriverai après à reprendre les hérésies contemporaines, les Illuminati, la franc-maçonnerie, etc., les manipulations de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Mais je dois vous donner les fondements de la parole de Dieu d'abord. Je ne veux pas m'intéresser d'abord aux affaires du diable. Je veux d'abord vous présenter les cadeaux et la gloire du Seigneur. Dieu vous bénisse. Et bon, nous sommes mercredi à vendredi. Nous continuerons. Si vous voulez déjà lire d'avance, vous pouvez lire. Vous lisez Ésaïe, chapitre 59, au verset 9, jusqu'à la fin du chapitre 62. Ésaïe 59, verset 9, jusqu'à la fin du chapitre 62. Vous pouvez lire Ésaïe 42 aussi. Tout sauf Ophonie. Nous le ferons vendredi. Gloire à Dieu et merci de votre amitié et de votre écoute. Je vous mets sur mon cœur et dans ma prière et que Jésus vous bénisse. Amen.
Amen.